Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris.
Jean-Pierre Boris et Pauline Leduc à la réalisation de cette émission. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Peu à peu, les gouvernements européens assouplissent les mesures de déconfinement adoptées il y a près de 2 mois pour tenter d'enrayer la pandémie de Covid-19. Ces 2 mois ont plongé l'économie mondiale dans un marasme sans précédent. Écoutez ce que disait le Premier ministre français Édouard Philippe le 19 avril dernier.
D'ores et déjà, il est acquis que l'impact de cette crise sanitaire, ce sera la plus forte récession connue en France et dans le monde occidental depuis 1945. Nous projetons que, au cours de l'année 2020, la croissance sera négative de l'ordre de moins 8%. Moins 8% de croissance en 2020, ça veut dire que la richesse nationale va se contracter, qu'elle va diminuer de l'ordre de près de 10%. C'est quelque chose de jamais vu qui va avoir un impact considérable.
Un point de vue que partage et qu'exprime à sa manière ce retraité français rencontré par David Bachet à Hendaye dans le sud-ouest de la France.
Alors, je ne comprends pas du tout. Là. Vous voyez, moi qui étais retraité, je pensais avoir une fin de vie un peu tranquille. Et puis tout compte fait, maintenant vous êtes dans la pauvreté le plus possible, quémander à bouffer.
C'est la première fois que vous venez à ce genre de distribution?
Ben oui, moi je ne me suis jamais vu dans une situation comme ça. Là je me dis en France, il y a quelque chose qui colle plus. Hein. Depuis des temps qu'on disait qu'on allait dans le mur, on y va ce coup-ci, et puis on y va plein. Hein.
Une crise très durement ressentie également au nord de l'Italie, comme le dit le secrétaire général de l'organisation patronale du commerce, Confcommercio de Milan.
L'ufficio studi nazionale di Confcommercio.
Le bureau d'études nationales de Confcommercio a estimé que la perte de consommation à l'horizon octobre-novembre serait de 85 milliards d'euros. Mon souhait, c'est que la crise sanitaire puisse toucher à sa fin autour d'avril 2021, date à laquelle ils disent qu'on trouvera un vaccin. Par conséquent, on peut espérer qu'à partir de la moitié de l'année 2021, il puisse y avoir un vrai début de reprise.
Ed un inizio importante di ripresa.
Conséquence de cette situation, 3 questions se posent aux populations concernées comme aux équipes au pouvoir. D'abord, comment concilier la reprise d'une activité économique normale avec le maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale? Deuxième question, quid de la crise économique? Quelle sera sa nature, son intensité, sa durée? Les dizaines de millions de chômeurs américains retrouveront-ils un emploi rapidement? La consommation européenne va-t-elle repartir au galop? Enfin, dernière question, cette crise fournit-elle une occasion de faire de nos économies des systèmes de production compatibles avec la préservation de la planète? Toute question que nous allons poser aujourd'hui aux 3 invités que je vous présente maintenant. Bonjour Paul Jorion.
Bonjour.
Paul Jorion, vous êtes anthropologue et sociologue, mais vous intéressez beaucoup à l'économie et à la finance. L'un de vos derniers livres paru aux éditions Fayard s'appelle « À quoi bon penser à l'heure du grand collapse ?» Un titre d'actualité. Avec vous dans cette émission, Véronique Riche-Flores, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous.
Véronique Riche-Flores, nos auditeurs vous connaissent bien, vous êtes économiste indépendante, vous avez créé une société de conseil qui permet de prodiguer vos avis éclairés à des dizaines d'entreprises qui cherchent à savoir dans quel monde économique elles évoluent. 3e invité, Lucas Chancel, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
Lucas Chancel, vous êtes le co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris. Vous êtes également chercheur associé à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. J'ajoute que vous enseignez à Sciences Po, l'Institut d'études politiques. Au cours de cette émission, pour terminer ce sommaire, des reportages bien sûr. Nous rejoindrons David Bachet dans le sud-ouest de la France, Pauline Glaise en Italie à Milan, Noé Hochet-Baudin nous parlera du secteur automobile en Afrique du Sud et Eric De Salve est à Oakland en Californie. Pour nous aider à saisir les difficultés auxquelles les citoyens de cette première moitié du 21e siècle font face en ce moment, nous partons d'abord en Italie. Bergame a été très durement touchée par l'épidémie de coronavirus. Les commerçants souffrent de l'arrêt de leur activité et ils ne pourront pas compter sur un tourisme en berne pour la relancer rapidement. Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Pauline Glaise à Bergame.
Un coffre de voiture rempli de vêtements en vendus, Antonio vide sa boutique de prêt-à-porter fermée depuis 2 mois.
Je brade, je fais du vide car la nouvelle collection va arriver et on essaie d'aller de l'avant. J'espère ne pas fermer, mais j'en sais rien. Ils disent qu'ils vont nous aider, mais ce sera très difficile, parce que le gouvernement, à part de belles paroles, il ne fait rien de plus.
À quelques mètres de là, appuyé sur une Vespa rouge à l'entrée de son bar, Paolo Giudici peut depuis 7 semaines vendre à emporter, mais ne voit pas l'avenir en rose.
Plus sombre que le noir. Je ne saurais pas dire comment vont se passer les mois qui viennent, dans le futur. On verra.
Engoncé dans son kiosque à journaux, Giuliana n'a pas fermé pendant le confinement, mais la crise n'épargne pas la septuagénaire.
Je fais 12 heures et je rentre à la maison les mains vides. Je rentre avec 50, 60 euros, vous imaginez ? Et je n'ai eu l'aide de personne. Il faudra payer les charges. Si l'activité reprend mi-mai, j'espère compenser un peu. S'il faut attendre juin, je serai mal en point.
À emporter seulement, pas de cônes, juste des coupes ou des boîtes.
Des glaces à Bergame, c'est possible, mais les clients de Saverio Florio ont déserté. Les charges, elles, sont toujours là.
Ils auraient dû bloquer les loyers. En ça, le gouvernement a fait une erreur. Ils ont donné 600 euros. Et ensuite, il y a eu les prêts. Mais il faut les rembourser. Moi, je n'avais pas d'emprunt. Et maintenant, je vais m'endetter.
Marco Barbieri, secrétaire général pour Milan et ses environs de l'organisation sectorielle Confcommercio, confirme qu'encore peu d'aides ont été versées.
En moyenne, les procédures de ce genre prennent 3 ou 4 mois avant que l'argent arrive concrètement dans l'entreprise.
Retour à Bergame, dans le centre historique. L'absence des touristes sera cruelle pour le glacier Pierangelo Suardi.
Le tourisme, c'est 70% de l'activité de la ville haute. Cette année, ce sera très dur. Mais bon, on continue comme ça, et puis on verra, petit à petit, on y arrivera.
Quant à savoir quand ils verront la fin du tunnel, pas toujours de pronostic. Certains espèrent que 2021 sera plus florissante.
Un reportage signé Paul Inglès, donc à Bergame, dans le nord de l'Italie. Véronique Riche-Flores, une des intervenantes, a cette expression « la situation est plus sombre que le noir ». C'est un avis que vous partagez sur la situation économique italienne, européenne, internationale en général ?
Oui, malheureusement, c'est un avis qu'on ne peut que partager, je dirais, parce qu'effectivement, la violence de cette crise et de l'impact des mesures de confinement sur l'activité est extrême. Et les difficultés à envisager un retour à des conditions de croissance un tant soit peu décentes sont très importantes parce que cette crise touche de plein fouet un secteur qui n'est pas forcément le secteur industriel. Les crises industrielles, on a l'habitude des récessions industrielles. Là, c'est une crise qui touche de plein fouet les services, les activités qui concentre la grande majorité des salariés, y compris beaucoup de salariés précaires, de petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les reins solides pour faire face à une interruption de leur chiffre d'affaires. Et ça se solde effectivement, comme on le voit notamment aux États-Unis, où là, il n'y a pas de parachute comme en Europe pour l'instant, par une envolée du chômage ou des destructions massives d'emplois et probablement une récession comme on n'aura jamais vu. Pour donner une illustration, on n'a jamais eu de contraction de l'activité des services aux États-Unis depuis 1932. Or là, nous nous orientons vers un choc dans ces multiples activités, mais ces secteurs d'activité exceptionnels, hein, qui donc va détruire beaucoup, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'emplois, et dont il sera assurément très difficile de se remettre.
Lucas Chancel, c'est une crise d'un nouveau type ?
Alors, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une crise de la sorte qui vient d'une pandémie. Par rapport à la grande récession de 2008-2009, hein, par opposition à la grande dépression des années de la fin des années 20 et des années 30, eh bien, aux États-Unis, bon là, on est déjà à un taux de chômage qui est 2 fois supérieur. 20% de chômage aux États-Unis, 2 fois plus que ce qu'on a observé au pic de la crise des subprimes en 2008-2009. Lors de la crise de 1929 et des années qui ont suivi, aux États-Unis, le taux de chômage a pu atteindre 25%. Donc on est vraiment dans cet ordre de grandeur-là, c'est-à-dire qu'en temps de paix, on est sur une crise qui est de l'ampleur de celle de 1929. Pour reprendre des estimations du Fonds monétaire international sur la croissance mondiale devrait se contracter. On entendait tout à l'heure Édouard Philippe qui parlait de la croissance française et du PIB français qui se contracterait de l'ordre d'une dizaine de points de PIB.
De produit intérieur brut, le PIB.
De produit intérieur brut. Et donc le produit intérieur brut mondial, lui, devrait se contracter 30 fois plus suite à cette crise-là que suite à la crise des subprimes.
De 2008.
Il y a 10 ans. De 2008. C'est-à-dire qu'en 2008, le produit intérieur mondial, en fait, c'est assez peu contracté parce qu'on avait des pays émergents qui faisaient tampon, entre guillemets, qui étaient peu ou pas touchés par la crise. Je pense à l'Inde, à la Chine. Or, eh bien, cette année, l'Inde et la Chine vont aussi être touchés. Et donc on a un effet qui est 30 fois supérieur, ce qui est totalement énorme. Dernier point, quand on s'intéresse à l'Union européenne en particulier, on a vu que cette crise, eh bien, elle exacerbe et elle révèle les inégalités sociales à peu près tous les niveaux. Elle les révèle à l'intérieur des pays, en France ou en Italie. Certaines populations, certaines catégories sociales qui sont plus modestes que la moyenne ont été surexposées à la crise. On pense aux travailleurs des services, on pense aux aides-soignants, aux aides-soignantes. Donc, à l'intérieur des sociétés, vous avez une exacerbation des inégalités, mais vous allez aussi les avoir entre pays européens, avec les pays du Sud qui n'étaient pas encore sortis de la crise de 2008-2009. L'Italie est plus pauvre aujourd'hui qu'elle ne l'était avant la crise de 2009. Et ces pays-là, malheureusement, sont davantage touchés. Et la grande question qui va se poser pour les Européens, c'est vont-ils être en mesure d'apprendre de leurs erreurs politiques et économiques, erreurs qui ont été extrêmement coûteuses pour les pays européens dans la décennie 2010. Parce que quand les États-Unis sont repartis assez rapidement après la crise des subprimes, l'Europe s'est embourbée, enfoncée dans une crise de la dette, une crise de l'euro, etc., etc., qui a coûté très cher.
Alors, Lucas Chancel, on va demander à Paul Jorion si lui, il pense que les Européens en particulier ont appris de leurs erreurs et de la crise et qu'ils vont adopter des nouvelles solutions, être plus solidaires qu'ils n'ont pu l'être, par exemple, en 2008-2009.
C'est le moment de porter un autre regard sur les choses. Vous avez mentionné un de mes livres paru il y a quelques années. Le livre le plus récent, écrit avec Vincent Burnand-Galpin, s'appelle « Comment sauver le genre humain » et traite directement, alors qu'il est sorti quand même quelques jours avant la crise, de ce type de problème. Mais le moment est venu de poser des questions justement sur la croissance, le PIB, etc. Tout ça, ce sont des conventions, et ce sont des conventions qu'il est temps de remettre en question. Qu'est-ce que c'est que le PIB? C'est une somme de valeurs ajoutées. Qu'est-ce que c'est que des valeurs ajoutées? Eh bien, c'est le résultat d'opérations comptables. Je ne dis pas que ces opérations comptables n'ont aucun rapport avec la réalité, mais ce sont des conventions. On peut faire ça d'une manière ou d'une autre, etc. Et on en parle depuis pas mal d'années dans la manière dont faisons notre comptabilité, la destruction du monde autour de nous. Nous ne la tenons absolument pas en compte. Alors, c'est le moment de refaire les calculs et de se dire, la croissance, c'est quoi? La croissance, en particulier, c'est le fait de ne pas détruire la nature autour de nous. Donc, on va refaire les calculs, tous ces calculs de PIB, tous ces calculs de croissance, on va les refaire en fonction de ce qui se passe vraiment. Par exemple, on a déjà des calculs sur le nombre de vies qui ont été épargnées, du fait qu'il y a moins de pollution dans l'air, du fait qu'il y a moins de voitures sur les routes, etc. Alors, on nous dit, oui, mais les gens ne sont pas payés en fonction de ça. C'est le moment de remettre en question des simples conventions comme celle qui dit que le salaire, c'est un coût pour l'entreprise. C'est une règle comptable, c'est une définition comptable, c'est pas inscrit dans la Constitution. Si on veut le mettre dans la Constitution, qu'on le mette dans la Constitution, mais jusqu'ici, ce sont des conventions. Le moment est venu, un tournant est là, qui nous permettra de remettre en question la définition du PIB. Jusqu'ici, on l'additionne simplement.
Oui, mais Paul Jorion, en quoi est-ce que changer le thermomètre améliorera, d'une manière ou d'une autre, le sort, le destin de ces gens qu'on entendait dans le reportage de Pauline Glaize et qu'on va entendre tout au long de cette émission dans nos différents reportages, qui sont dans la mouise, qui n'ont plus de revenus? En quoi est-ce que ça change leur destin?
Eh bien, pour changer leur destin, il faut dire aux gens qui nous disent maintenant, comme par exemple l'Institut Montaigne, que la solution, ça va être que les gens travaillent plus, qu'on supprime des jours de congé, qu'on dise à ces gens-là, mais taisez-vous, vous allez provoquer des révolutions en disant comme ça. Avec une arrogance de classe comme ça, vous allez simplement produire des mouvements comme les Gilets jaunes, et la prochaine fois, on ne sait pas ce que ça va donner. Alors, cessez votre irresponsabilité, cessez vos comptes d'apothicaire, et qu'on commence à regarder comment véritablement ça fonctionne une société humaine. Donc, les gens qu'il faut faire taire, c'est essentiellement des gens comme le MEDEF, c'est des gens comme l'Institut Montaigne qui font de la provocation gratuite, qu'un regard de nanti sur ceux qui n'ont pas grand-chose en leur disant « Eh bien écoutez, c'est vous qui paierez les pots cassés à l'arrivée ». Non, ce sont les erreurs de tous ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui ont fait des erreurs.
L'Institut Montaigne, je le précise, c'est un think tank d'inspiration libérale qui publie régulièrement des études et qui en a publié une récente à laquelle vous faisiez allusion. Lucas Chancel, ce que dit Paul Jorion, comment le recevez-vous ?
Écoutez, sur le fond du message, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il faut penser à un autre modèle. Il faut penser à un modèle qui soit beaucoup plus respectueux de l'environnement, de nos écosystèmes, qui prennent en compte nos vulnérabilités individuelles et collectives et qui soient davantage basées sur le lien et sur ce qui compte vraiment. Cela étant dit, je pense que c'est aussi dangereux de effectivement casser le thermomètre pour les raisons qui sont également soulevées par Paul Jorion, c'est-à-dire que si demain on désintéressait de cette décroissance du PIB parce que le PIB est un mauvais indicateur sur énormément de choses, ça c'est vrai, mais en fait le PIB est aussi un indicateur très utile et particulièrement en temps de récession. Si on se désintéressait de ces chiffres-là totalement, eh bien on pourrait aussi aller vers des révolutions qui vont pas du tout dans le bon sens. C'est-à-dire que cette contraction du PIB dans nombreux pays, en fait aujourd'hui, c'est un indicateur qui nous dit quoi ? Qui nous dit misère sociale, qui nous dit accroissement du chômage, qui nous dit faillite d'entreprise. Et tout ça, c'est des conditions de vie réelles qui sont chahutées, qui sont impactées par la crise en cours. Donc oui, il faut développer de nouveaux indicateurs, il y en a déjà qui existent, mais mettre complètement ce PIB à la poubelle, ça me semble pas forcément être la bonne chose à faire aujourd'hui à très court terme.
Véronique Riche-Flores, vous, cette montée des inégalités, vous la sentez, vous la voyez venir ?
Oh, il y a bien longtemps qu'on la sent, il y a bien longtemps qu'on la voit venir et s'installer et qu'on en voit les conséquences économiques qui sont très profondes et qui sont de plus en plus manifestes, même pour les non-économistes, je dirais. C'est une croissance, effectivement, notamment en termes de distribution des fruits de la croissance, puisqu'on parle précisément de cette croissance, qui est totalement inégalitaire depuis longtemps, mais particulièrement depuis la crise de 2008. En réalité.
Et vous pensez que la crise actuelle va aiguiser ces inégalités ?
Oui, bien évidemment. Mais d'ailleurs, on pourrait faire une petite représentation. On mettait les cours boursiers d'un côté et puis l'emploi de l'autre dans les grandes économies. Et là, vous avez la meilleure représentation, effectivement.
C'est-à-dire que les cours de bourse montent et le chômage aussi ?
Les cours de bourse montent on pourrait presque dire s'envolent d'ailleurs, parce que là, tous les outils de politique économique et particulièrement monétaire sont à l'action, à pied d'œuvre pour sauver le système. Et le système est aujourd'hui un système hyper financiarisé. Et puis en face, effectivement, une envolée du chômage dont on n'a rien vu encore d'ailleurs, parce que notamment en Europe, tant qu'on a avec ces plans de protection de l'emploi, le plus vraisemblable, c'est qu'on constate l'envolée et les dégâts sur le marché de l'emploi au moment du déconfinement. Donc là, on a effectivement une illustration de la société et de ses réalités, c'est-à-dire une hyper-concentration et de plus en plus de concentration de la richesse créée par les plus riches et les plus âgés. Il y a un phénomène démographique qui est très important dans ce creusement des inégalités de ces dernières décennies, mais particulièrement des deux dernières. Et incontestablement, la crise va aggraver ce système, non seulement dans nos économies plus développées, mais plus largement. Moi, ce que je redoute également beaucoup, c'est ce qui peut se passer dans les pays émergents.
Alors, on va en parler plus tard, les pays émergents. C'était Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons donc de ce monde d'après, de la crise. crise qui vient, de ce cortège de misère qui nous menace, qui menace le monde, chômage, etc., pauvreté, faim, avec trois invités, Véronique Riflores, économiste, Lucas Chancel, économiste, et l'anthropologue et sociologue Paul Jorion. Alors lundi, ce sera la première journée du déconfinement en France. Vous l'avez beaucoup entendu dire sur les antennes des RFI, et on va encore beaucoup en parler bien sûr. De nombreuses activités économiques à l'arrêt vont reprendre, notamment dans l'industrie. Mais cette reprise suscite presque autant d'espoir que de crainte, tant les incertitudes sont grandes. Par exemple, dans cette PME de Cestas, près de Bordeaux, où l'on fabrique des pièces métalliques. Un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé David Bachet.
L'atelier a repris du service il y a 3 jours, afin de pouvoir servir les clients dès lundi matin. Du mobilier urbain aux pièces automobiles, tout ce qui est fait de métal peut être fabriqué ici. Depuis 1 mois et demi, l'entreprise Sora Garnier tournait au ralenti. C'est Lionel Garnier qui la dirige.
On va être sur au moins 80% d'activité qui a été arrêtée. On a gardé une vingtaine de pourcents sur du dépannage et des arrêts d'usine, quoi.
Et en termes de salariés ?
C'est pas compliqué, j'ai gardé donc un employé avec moi-même. Donc on était 2 et puis le reste du personnel a été mis au chômage technique. 8 personnes au chômage partiel, 2 qui restent.
La spécialité de Gilles Chalard, l'un des employés, c'est la serrurerie. Il est heureux de retrouver son fer à souder, mais aussi un peu inquiet.
Bah oui, parce que bon, les journées sont longues à la maison, puis financièrement, on perd quand même.
Qu'est-ce que vous en attendez de cette reprise ?
Ben que ça redémarre le plus vite possible. Nous, on a du boulot, mais c'est pour les années à venir. Il va quand même y avoir un impact, je pense. Là, il n'y a pas de rentrée d'argent, donc il y a des boîtes qui ne pourront pas tenir, je pense. Et c'est sûr qu'il y a des commandes, oui, il y en aura moins.
Son chef d'atelier, Victor de Harojo, ne cache pas non plus certaines craintes.
On va démarrer progressivement. On espère arriver rapidement à comme on était avant le confinement. Mais aujourd'hui, on ne sait pas où on va.
C'est quoi les incertitudes ?
Les chantiers du jour au lendemain. Est-ce qu'ils vont démarrer ? Est-ce qu'ils vont refermer ? Le risque, c'est une chute brutale de l'activité. C'est-à-dire que les chantiers sont arrêtés, on ne peut plus travailler, on ne peut plus produire.
L'accès aux chantiers est une inquiétude immédiate. L'approvisionnement aussi, puisque les fournisseurs sont eux-mêmes désorganisés. Mais ce qui intéresse le plus le patron, Lionel Garnier, c'est le long terme.
On ne sait pas ce qui va nous arriver, on ne sait pas comment ça va tourner. C'est juste ça l'inquiétude, c'est le doute et ne pas savoir où on va.
Et du coup, ne pas savoir ce que vos clients potentiels vont être en mesure de vous commander.
En fait, nous, c'est principalement des marchés publics et des institutions publiques. Pour l'instant, ce n'est pas des priorités, on est bien d'accord. Maintenant, vous savez, des collèges, ils en ont quand même besoin, des écoles, ils en ont quand même besoin. Alors peut-être qu'il y a des travaux qui vont repousser, des choses qui vont remettre en question.
Du coup, ce chef d'entreprise, optimiste et résolu, réfléchit déjà à une stratégie d'adaptation.
On ne reviendra pas comme avant. Le marché va évoluer. Peut-être que ça va rapprocher les gens, nous amener les marchés beaucoup plus près que ce qui se faisait avant. Enfin, on avait des confrères qui arrivaient de très loin pour prendre des marchés dans le coin et qui nous faisaient énormément de mal. Et donc l'adaptation pour nous va être plus de solliciter nos clients locaux en leur disant « voilà, nous on est là, on va beaucoup moins se déplacer. Peut-être que ça va coûter un tout petit peu plus cher ». Mais on fait corps là-dessus. Et ça peut être intéressant pour nous.
Mais pour cela, ce chef d'entreprise compte sur l'accompagnement des banques. Or, dans le contexte de ralentissement économique à venir, Lionel Garnier exprime de très vives inquiétudes sur le soutien qu'elles voudront bien lui accorder.
Un reportage signé David Bachet dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Véronique Riche-Flores, ce chef d'entreprise, il évoque des marchés de proximité. Moins de concurrence apparemment. Vous pensez que c'est une économie plus douce, plus gentille, qui va se développer dans les mois et les années qui viennent ?
Eh bien, on a tous tout l'espoir qu'effectivement ce choc et la prise de conscience, l'éveil par rapport aux excès de l'économie, du modèle de croissance passée, cette prise de conscience de l'hyperconcentration de la production des biens en Chine essentiellement et dans quelques pays d'Asie, conduisent effectivement à un changement, impose un changement et qu'on aille vers un développement plus éco-responsable. Je crains malheureusement que derrière ces espoirs, on sous-estime la réalité qui est, la puissance du système et les forces en jeu pour le défendre, et deux, la situation dans laquelle on va se réveiller post-crise, enfin post-confinement, c'est-à-dire une crise extrême, dans laquelle notamment les niveaux d'endettement de tous les niveaux, de tous les agents, mais d'abord les entreprises et les États, vont être telles que probablement les bonnes volontés de politique économique en faveur du changement structurel vont s'éteindre, parce qu'on connaît la ritournelle, on l'a eu après la crise de 2008. Rappelez-vous, décembre 2008, non, il fallait plus gérer les choses, il fallait donner la priorité au long terme, ne pas procéder à des changements considérables sur la façon de mener nos politiques économiques. Et puis, finalement, dès que c'est reparti, tout le monde s'est engouffré dans la croissance chinoise et la mondialisation, etc. Et puis après, on s'est occupé du surendettement avec les politiques d'austérité désastreuses. J'ai bien peur qu'on ait peu ou prou le même type de comportement dans quelques mois, c'est-à-dire qu'effectivement, on oubliera les belles idées, on oubliera les impératifs climatiques, et c'est d'ailleurs déjà un petit peu le cas.
Donc ça veut dire quoi pour ce chef d'entreprise de Cestas à Bordeaux? Vous lui diriez, non, vous vous trompez, la situation va être beaucoup plus dure que ce que vous rêvez?
Alors, j'aurais surtout pas envie de lui dire cela, parce qu'effectivement, je pense que les espoirs et la volonté qui se dessine auprès de tous les agents est nécessaire pour faire bouger les lignes. Je lui dirais néanmoins que on est face à un combat idéologique, et que pour arriver ou continuer à espérer qu'effectivement on ait ce changement vers une économie plus équilibrée, qu'on rapproche les producteurs des consommateurs, etc., il va falloir sans doute se battre. Et pour l'instant, je ne vois pas le combat. Je vois assez peu d'ailleurs de représentants politiques livrer ce combat pour faire une cause qui véritablement permettrait d'envisager qu'on avance. Et la France toute seule, on le sait, sans l'Europe, aura beaucoup de mal à avancer. L'Europe sans les États-Unis, probablement également dans cette voie-là.
Paul Jorion, vous citiez tout à l'heure l'un de vos livres, Défense et illustration du genre humain, qui est paru chez Fayard. Dans ce livre, à la page 11, vous voyez, je l'ai lu ce livre, vous écrivez « Nous vivons dans un monde où se sont parallèlement développées les techniques qui permettent l'apparition d'individus considérablement augmentés, peut-être immortels, et d'autre part, l'épuisement des ressources, le dérèglement climatique, un environnement devenu toxique qui conduisent à l'extinction du genre humain, pas moins. » On y est ? C'est l'extinction du genre humain qui nous menace là ?
Oui, effectivement. L'ouvrage dont je parlais, c'est « Comment sauver le genre humain ?»
Oui.
C'est paru le 18 mars.
Oui.
Mais écoutez, madame parle de combat idéologique qu'il faudrait pouvoir mener. Elle parle d'éco-responsabilité. Vous-même, vous dites « Tiens, la bourse et le chômage augmentent en même temps. » Et quand tout à l'heure, je vous propose une solution, vous me dites « Oui, vous voulez casser le thermomètre. » Ce que je propose en revisant cette approche de la croissance et du produit intérieur brut, ce n'est pas de casser. C'est un thermomètre qui, en réalité, ne mesure pas la température. C'est de proposer pour la première fois un thermomètre qui mesure la température et pas l'instrument dont on nous parle, qui mesure simplement la manière dont les combats entre les employés et les employeurs sont menés dans notre société. Quand on parle de tout ça, c'est la question véritablement de savoir qu'est-ce que c'est qu'un gain pour l'humanité et qu'est-ce que c'est qu'une perte. La manière dont on fait les calculs maintenant, on ne va pas avoir une récession, on va être dans une dépression. Alors on a un choix. On va dire on a une dépression, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus que des chômeurs et les gens qui ont beaucoup d'argent n'en auront pas perdu beaucoup, contrairement à 1929, ils se sont protégés depuis. Ou bien on prend le taureau par les cornes et on redéfinit la manière dont la croissance se fait, dans la manière dont le profit se fait dans les entreprises. C'est ça que madame réclame, c'est ça que mon collègue réclame aussi, c'est ça que vous indirectement aussi réclamez en disant pourquoi est-ce que la bourse augmente quand on perd des emplois. Mais c'est très simple, parce que l'emploi, le salaire, c'est un coût pour l'entreprise, et que le patron de l'entreprise qui vire les personnes, qui les licencie, il fait une économie pour l'entreprise, il réduit les coûts, et donc on va lui donner un bonus supplémentaire. Toute l'économie, toute la finance va applaudir parce qu'il a licencié des gens, parce que c'est un coût pour l'entreprise. Au XVIIIe siècle, on n'envisageait pas les choses comme ça du tout. Si vous regardez chez Quesnay, que fait le capitaliste? Il apporte son capital, il fait des avances en capital. Que fait le directeur de l'entreprise? Il avance son travail de direction et supervision de l'entreprise. Et que fait le travailleur? Il avance son travail et il sera rémunéré de cette manière-là. On a changé ça au 19e siècle. On a dit le travailleur, il coûte simplement de l'argent à l'entreprise. C'est là-dessus que sont fondés tous nos calculs du PIB. C'est là-dessus que sont fondés tous nos calculs sur la croissance. On va pas pouvoir faire l'économie de dire, voilà, on a une croissance de moins 30%. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Non, qu'on revoie une fois pour toutes cette question d'éco-responsabilité, de fait que nous détruisons la nature, le fait que nous sauvons des vies quand l'activité économique diminue. C'est ça maintenant qu'il faut intégrer. Et sinon, comme vous avez fait allusion à ce que je dis à propos de l'extinction, sinon ça passe ou ça casse. Ce Covid-19, on le voit bien, c'est pas un petit épisode qu'on va voir comme ça et puis qu'après il faudra réfléchir de nouveau au réchauffement climatique. Non, c'est effectivement un grand processus qui est en marche et ça c'est un élément et il faut l'intégrer comme un élément d'un processus très dangereux qui est en marche.
Quel genre de processus ?
Un processus d'effondrement, bien entendu. Moi, je ne suis pas un alarmiste, je ne suis pas un collapsologue, je ne dis pas il va y avoir un effondrement, il faut juste se préparer à être un survivaliste sur une petite île quelque part. Je dis non, il y a des solutions, il y a des possibilités, on peut changer les choses. Et vous vous souvenez peut-être, en 2008, je faisais partie du petit groupe de gens qui avaient annoncé ce qui allait se passer. En 2009, on a dit voilà ce qu'il faut faire, et tous nos dirigeants ont dit oui, on a bien compris qu'il fallait changer les choses, etc. Rien n'a changé. Pourquoi? Parce que le rapport de force n'avait pas changé, parce qu'il y avait ce banquier qui disait, il a fait rire tout le monde en septembre 2008, vous inquiétez pas, c'est nous qui allons quand même reconstruire le système à l'identique. Tout le monde rigolait, personne prenait ça au sérieux, mais c'est ce qu'il a fait, et avec ses petits camarades, c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce qu'on va encore essayer de faire cette fois-ci. Alors si comme madame on dit, on n'en veut plus, eh bien...
Madame, c'est Véronique Rich-Flores.
Où il faut changer les choses, il faut changer les conventions, et c'est ça, c'est pas une révolution, c'est pas descendre dans la rue, c'est simplement changer les conventions par rapport auxquelles on regarde le fait qu'il y a des gens qui travaillent et des gens qui vivent simplement de rendement de leur capital, le fait que ça rapporte d'avoir déjà de l'argent.
Alors, retour au reportage avec la situation en Afrique du Sud. Le confinement y a été décrit comme le plus strict au monde, avec 70 000 soldats pour le faire respecter. Depuis le 1er mai, le pays se rouvre progressivement, mais un seul mois de confinement aura suffi, selon le Trésor sud-africain, pour détruire entre 3 et 7 millions d'emplois. Or, depuis la crise de 2008, l'un des principaux piliers de l'économie sud-africaine, le secteur minier, périclite, et la crise actuelle pourrait porter un coup sévère à un autre secteur stratégique, la construction automobile, un dossier signé Noé Ochebodin.
L'heure est à la réouverture en Afrique du Sud. Sur les 7 grands constructeurs internationaux présents, 3 ont déjà rouvert les lignes d'assemblage. Les 4 autres, dès lundi. En effet, l'automobile a été déclarée comme l'un des secteurs clés de l'économie. Poumlanine Damané a pu reprendre le travail dans l'usine de Mercedes-Benz à East London.
Chez Mercedes, nous avons été payés pour le mois d'avril. Pour l'instant, nous n'avons pas perdu d'emploi. Mais rien ne nous dit si des emplois seront supprimés à l'avenir. Notre production a baissé, elle. Normalement, nous construisons plus de 80 000 véhicules par an. Les nouveaux objectifs sont de 56 000.
Poumlani a donc été payé malgré la fermeture des usines, comme plus de 460 000 employés du secteur automobile. Le plus dur reste à venir avec une crise économique à l'horizon. Déjà, la demande automobile a chuté de 98% au mois d'avril. De mauvais augure, selon Michael Mabasa, président de la Fédération sud-africaine des constructeurs automobiles.
Nous ne prévoyons pas de perte d'emploi malgré la crise. Nous pensons que la plupart des grands constructeurs internationaux vont être capables d'absorber le choc économique et qu'ils vont sauver les emplois. Cependant, c'est le sort des petites et moyennes entreprises qui m'inquiète. Ils emploient beaucoup de monde et vont perdre énormément de leurs revenus. Ils sont actuellement sous pression.
Selon Poumlanine Damané, un naufrage est possible dans sa ville de East London, ville côtière de 260 000 habitants, construite principalement autour de l'industrie automobile.
Ce serait la catastrophe à East London. Toute la municipalité compte principalement sur l'industrie automobile. Les fournisseurs et toute la chaîne logistique sont en danger. Si Mercedes ferme son usine sud-africaine, tout le monde ferme.
Martin Davis est en charge du secteur automobile pour le cabinet Deloitte. Pour lui, la chute de la production serait un très mauvais signal pour le dynamisme de l'économie sud-africaine.
C'est le seul exemple de succès d'une politique industrielle en Afrique du Sud depuis plus de 20 ans. Tous les autres essais se sont érodés ou effondrés. Dans le moyen terme, c'est-à-dire une période de 3 ans, je pense qu'entre 10 et 20% des emplois seront perdus. Les investissements des constructeurs sont destinés en priorité aux marchés extérieurs, aux exportations. L'Afrique du Sud a un marché domestique assez moyen qui va sûrement se contracter à hauteur de 25 ou 30% cette année.
Pour les constructeurs internationaux en Afrique du Sud, la crise arrive au plus mauvais moment. Ils viennent de signer un accord salarial avec plus de 300 000 employés qui verront leur salaire augmenter de 20% dans les 3 années à venir.
Un reportage, un dossier signé Noé Hochet-Baudin. Lucas Chancel, l'impact de cette pandémie sur les pays émergents, est-ce que c'est la grande différence entre cette crise-là et celle de 2008?
Alors, si on considère la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, absolument. Ces pays vont probablement être beaucoup plus touchés qu'ils ne l'ont été il y a 10 ans. Sur les pays d'Afrique subsaharienne hors Afrique du Sud, il semblerait à ce stade qu'il y ait moins de cas de Covid qu'on a pu l'anticiper ou le craindre à un moment. Bon, il faudra vraiment voir une fois ces mois de crise passés, puisqu'il y a aussi, on le sait, des difficultés en termes de capacité statistique et de mesure et de suivi des cas liés au coronavirus. Mais toujours est-il que par rapport à il y a 10 ans, oui, les pays émergents vont être beaucoup plus touchés dans cette crise que lors de la précédente. Et je voudrais ici parler d'un point. L'Afrique du Sud, c'est un pays, on le sait, qui était déjà avant cette crise ultra inégalitaire. C'est l'un des pays au monde où les inégalités sont les plus fortes, sont les plus extrêmes. Les 10% les plus riches détiennent près de 90% de la richesse totale. Donc on est vraiment sur une inégalité extrêmement forte qui est elle-même héritée de l'apartheid. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en Afrique du Sud, la fin de l'apartheid n'a pas mis à plat les inégalités économiques qui lui préexistaient. Donc on a eu une baisse évidemment radicale des inégalités politiques, sociales, mais les inégalités économiques, elles, ont perduré. Et elles se sont même en réalité, modestement accru. Et donc, ici, la question qui va se poser, c'est, et je fais le lien avec le reportage d'avant, celui sur ce chef d'entreprise en France qui parlait de commandes publiques. Ici, on voit dans cette crise, pour faire face au choc en cours, l'importance du rôle du collectif, de la puissance publique, ici pour donner du travail et faire des commandes auprès d'entreprises locales, là, payer des assurances, des allocations chômage. Et donc dans chaque pays, la puissance publique va avoir un rôle accru. La question qui se pose, pour reprendre aussi les mots de Véronique Riche-Florès, c'est comment est-ce qu'on fait pour éviter des niveaux de dette absolument hallucinants, ou comment est-ce qu'on fait pour financer cette dépense publique? Eh bien dans un pays comme l'Afrique du Sud, eh bien il n'y a pas d'impôt sur le patrimoine, comme dans beaucoup de pays du monde d'ailleurs. Donc voici une proposition concrète pour faire face à cette crise, pour permettre à la puissance publique de venir en aide aux petites, aux moyennes entreprises et aux ménages. Taxons davantage cette ultra-concentration des richesses. On peut le faire en Afrique du Sud, on peut le faire en France, on peut le faire en Europe, on peut le faire dans tous les pays du monde aujourd'hui.
Véronique Riche-Florès, ça vous semble une bonne suggestion ?
Ça me semble surtout une nécessité. Une nécessité après des années au cours desquelles, effectivement, on a vu les taux d'imposition mondiaux être écrasés par baisser considérablement par l'hyper-concurrence née de la globalisation. Donc tout ceci est lié. Et je pense qu'effectivement aujourd'hui, on aura besoin effectivement de réduire les dettes publiques. Ça passera par probablement des hausses de la fiscalité. Et quand je parlais tout à l'heure de combat idéologique, on est en plein cœur de ce combat, parce que je pense qu'effectivement cette évidence du point de vue économique sera extrêmement difficile à concrétiser sur le plan économique, hein, et qu'on voit bien que peu de dirigeants ont a priori
envie de s'atteler à ce type de mesures, mais effectivement une nécessité qui va s'imposer et qui ira de pair, me semble-t-il, avec un mouvement qu'on perçoit déjà ces dernières années de réduction de la mondialisation, donc du début du rapprochement d'ailleurs du monde des producteurs de celui des consommateurs. Tout ceci est un ensemble effectivement qui me semble assez clair ou offrir une certaine lisibilité, me semble-t-il, pour ce qui est des prochaines années.
Je sais que vous êtes, Véronique Richelorès, très sensible à la question des pays émergents. Vous avez fait un briefing pour vos clients il y a quelques jours, durant lequel vous êtes longtemps attardé sur cette question des pays émergents. C'est un problème clé en ce moment pour vous, dans cette crise-là, plus que dans d'autres ?
C'est un problème absolument majeur, effectivement, à plusieurs égards. D'abord, du point de vue humain, hein, parce que les pertes sont considérables. Après, du point de vue économique, rappelons-nous, 2008, qui a sorti l'économie mondiale de la crise ? C'est la Chine. C'est la Chine avec un plan de relance considérable qui a notamment concerné le développement de son marché automobile, sur lequel l'industrie mondiale de l'automobile a surfé. Quand on parlait tout à l'heure des producteurs d'automobiles en Afrique du Sud, s'il y a une production en Afrique du Sud aujourd'hui d'automobiles, c'est la conséquence indirecte de ce mouvement mondial initié par la Chine. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où le monde est et à la fois touché bien évidemment par les problématiques sanitaires, par des politiques de confinement. Regardez ce qui se passe en Inde, qui ont des conséquences absolument dramatiques, qui risquent de tourner, d'évoluer vers des pénuries alimentaires également dramatiques. On est par ailleurs face à une crise industrielle manufacturière qui signifie une baisse des prix des matières premières, dont le pétrole a été la première illustration, qui va sanctionner la plupart des pays émergents en dehors de l'Asie, qui sont de gros exportateurs de matières premières et qui en retirent l'essentiel de leurs ressources. Et ajoutons à cela des pertes de revenus touristiques, puisque finalement beaucoup de pays, notamment en Asie, ont développé leur secteur touristique de manière d'ailleurs totalement insoutenable sur le long terme et qui posait beaucoup de questions, notamment environnementales, mais toujours est-il que ça a été une source de revenus très importante qui aujourd'hui disparaît du jour au lendemain. Donc finalement, quand on prend la mesure de tous ces chocs multiples, on a effectivement des perspectives ou le sentiment que le monde émergent est en train d'être frappé de manière extrêmement violente et qui, bien évidemment, suscite beaucoup d'inquiétudes à un moment où, rappelez-vous, quand même, depuis 2-3 ans, l'essentiel de la croissance mondiale est soutenu par ce qu'apporte le monde émergent au reste du monde.
Véronique Richelorès, vous avez prononcé le mot faim tout à l'heure, faim, F-A-I-M. Le pays le plus riche au monde, aujourd'hui les États-Unis, est peut-être l'un des plus inégalitaires. Aux États-Unis, on est aujourd'hui à plus de 30 millions de chômeurs, un Américain sur 5 est au chômage, et la faim, F-A-I-M, y fait son apparition. Les foules se précipitent vers des banques alimentaires. Écoutez ce reportage signé Eric DeSalve à Oakland, en Californie.
Asperges, pommes de terre, mandarines, yaourts. Sous de grandes tentes, une dizaine de volontaires, masques sur le visage, gants sur les mains, remplissent à la chaîne des cartons de nourriture.
Honnêtement, les gens manquent de tout, surtout les familles nombreuses. Il y a de plus en plus de monde à chaque fois. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi et viennent ici pour la première fois.
Une scène étonnante dans la première puissance économique de la planète. 8 heures du matin, cette banque alimentaire d'Auckland n'ouvre que dans une heure, mais déjà sur le parking, la file d'attente s'allonge. Une centaine de voitures viennent chercher de la nourriture gratuite. Du jamais vu, explique Michael Altfest, le directeur de l'Alameda Food Bank.
Quand le déconfinement a été décrété, dès le lendemain, nous avons vu un déferlement sans précédent de gens dans le besoin. Sur ce site, quand nous avons fait la première distribution le 30 mars, nous avons eu une trentaine de familles. Aujourd'hui, nous en attendons probablement un millier. Quand les gens se tournent vers nous, ils en sont déjà à sauter des repas, à vendre leurs meubles pour payer les factures.
Sous les tentes, les voitures commencent à défiler. Les colis de nourriture sont déposés directement dans les coffres déjà ouverts. Il faut respecter la distanciation sociale. Aucun contact Juste une tape sur le capot, un regard et un merci. 90% des bénéficiaires sont des latinos, avec souvent la même histoire, celle d'une classe ouvrière américaine, sans filet de sécurité, première victime du coronavirus, poussée au chômage presque du jour au lendemain par le confinement. Plus de travail, pas ou très peu d'indemnités. Dans la file, Marcos, 40 ans, manutentionnaire, n'a déjà plus de quoi acheter à manger pour ses deux enfants et ne sait pas comment payer son loyer.
Les temps sont difficiles, mes heures de travail ont presque été réduites à zéro et mes revenus aussi.
Quelques voitures plus loin, au volant de son pick-up, José, ouvrier du bâtiment, au chômage lui aussi depuis l'arrivée du coronavirus, vient à la banque alimentaire pour la seconde fois en laissant couler une larme sur son visage.
On est là parce qu'on n'a plus de travail, on n'a plus rien, on n'a pas d'autre choix que de venir ici. Un de mes collègues et amis est tombé malade, alors avec tous les collègues, on a dû être testé. Grâce à Dieu, tout le monde est négatif, mais mon ami est toujours malade. Il faut que ça s'arrête, cette maladie.
À San Francisco, les Latinos ne représentent que 15% de la population, mais un quart des cas de Covid-19, comme dans le reste des États-Unis, où les minorités sont surreprésentées parmi les victimes du coronavirus.
Un reportage signé Éric de Salve. Paul Jorion, ce reportage, il est emblématique de la situation économique et sociale qui nous attend demain, ou est-ce que c'est un cas paroxystique?
Non, c'est la situation, c'est les États-Unis, ça. Il faut dire qu'Oakland, c'est de l'autre côté de la baie de San Francisco. C'est une banlieue pauvre de San Francisco. La ville de San Francisco étant extrêmement riche. La Californie, en tant que telle, vous le savez, elle a toujours été à la pointe technologique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est toujours dans, je dirais, le fer de lance de la fuite en avant du monde moderne. C'est là que le transhumanisme est né, c'est là qu'on trouve toutes les grosses entreprises, les GAFAMI se trouvent là. Mais elle bénéficie, comme tous les États-Unis, de cette masse d'immigrants qu'on appelle latinos, qu'on appelle hispaniques, et qui en fait sont essentiellement des Amérindiens venant de l'Amérique centrale, essentiellement du Mexique, Guatemala, Nicaragua,
Salvador.
Salvador, et c'est une population dans l'histoire des États-Unis à qui on permet de venir à certaines époques, et parfois même on les déporte. Dans les années 30, on a déporté ces Latinos, on les a renvoyés dans leur pays. Il y a une fameuse chanson de Woody Guthrie qui s'appelle Deportee sur cette histoire-là.
Paul Jorion, qu'est-ce que ça nous dit, ce reportage de la situation des États-Unis? Est-ce qu'ils peuvent servir de locomotive?
Mais il faut savoir, et ça, moi j'ai vécu 12 ans en Californie, il faut le savoir, les États-Unis nous disent toujours avec 10 ans d'avance ce qui va se passer chez nous. Alors on regarde ce qui se passe aux États-Unis et on dit ça n'arrivera jamais chez nous, comme le hamburger, des tas de choses comme ça qui finalement sont tout à fait bien arrivées. Donc il faut regarder avec attention ce qui se passe là, parce que oui, ça va se passer chez nous. Je vois aux nouvelles un jogger noir tué par deux blancs aux États-Unis. Dans la situation où on est aux États-Unis en ce moment, dans une situation qui va être de très grande difficultés économiques, de récession, sinon de dépression, les inégalités raciales vont encore augmenter. On parlait de la croissance tout à l'heure.
On arrive au bout de l'émission, Paul Jorion.
Non, juste un chiffre. C'était une conférence à laquelle se trouvait Monsieur Stiglitz, prix Nobel d'économie, et qui nous disait combien de la croissance l'année dernière aux États-Unis est allée au 1% le plus riche. Tout le monde a cherché le chiffre et il a dit c'est 105. C'est-à-dire qu'il y a encore 5% qui sont avec le mécanisme de concentration de la richesse. C'est de l'argent pris à ceux qui l'avaient et qui croyaient le garder pour toujours. Ça ne va que s'exacerber. Il faut qu'on fasse très attention aux conséquences de ça.
Cette émission est maintenant terminée. Merci Paul Jorion, merci Véronique Riche-Flores, merci Lucas Chancel d'avoir accepté l'invitation de RFI. Cette émission était réalisée par Pauline Leduc. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, via Twitter, via vos applications ou l'application Pure Radio pour nous podcaster. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Il y a en ce moment quelque chose dans l'air qui...